La tête. La tête. Oh, oh, oh. Carré. Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour à toutes et à tous, on l'a donc appris en fin de matinée, le décès du généticien Albert Jacquard à l'âge de 87 ans. Albert Jacquard était donc venu en 2009 dans la tête au carré à l'occasion de la sortie de son livre « Le compte à rebours a-t-il commencé ?» qui était paru aux éditions Stock. C'était la première fois d'ailleurs que je le recevais. Et dans cet essai court mais dense, Albert Jacquard dressait la liste des impasses dans lesquelles l'humanité s'est engagée. Une discussion au cours de laquelle Albert Jacquard évoquait tour à tour le nucléaire, la démographie, l'économie et l'éducation, mais avec toujours à l'esprit l'idée d'une humanité joyeuse. Albert Jacquard était un scientifique très aimé du public et pour lui rendre hommage, je vous propose donc de le retrouver dans quelques instants. 30 minutes d'entretien que nous avions partagé tous ensemble le 17 avril 2009. Et merci à Violaine Ballet qui a pu donc retrouver, remonter cette archive pour vous la proposer cet après-midi.
La tête au carré, jusqu'à 15h sur France Inter.
Rock the Casbah, The Clash sur France Inter.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. La tête.
Hommage à Albert Jacquard cet après-midi alors que nous apprenions donc sa disparition fin de matinée. C'était le 17 avril 2009. Nous le recevions à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Son titre, Le compte à rebours a-t-il commencé chez Stock. Un livre comme un avis de tempête. Albert Jacquard parlait dans cet essai d'une humanité à la croisée des chemins. Et pour lui, même si le pire n'était pas certain, le temps était quand même largement compté.
Oui, je n'ai pas vraiment beaucoup de recherches. Ce que j'ai fait, c'est un essai de compréhension personnelle, comme tout le monde, et je me suis aperçu que pas mal d'idées qui étaient répandues largement étaient des idées fausses. Et tout naturellement, je me suis mis à lutter contre, quand il s'est agi, par exemple, du racisme, etc. Par conséquent, tout naturellement, sans l'avoir prémédité, je me suis retrouvé celui qui essaie de faire comprendre ce qu'il croit avoir compris. C'est donc le rôle plutôt du vulgarisateur que du chercheur.
Oui. Mais... Il y a eu un abandon involontaire, alors en tout cas inconscient de votre part, du métier de scientifique.
Inconscient. C'est j'étais poussé par le besoin de m'exprimer. J'entends dire une chose absurde, par exemple à propos de racisme, je ne peux pas ne pas réagir. Et réagissant, je suis tout naturellement amené à prendre parti, à participer à une lutte et... Quand il s'agit de lutte, on a évidemment entraîné à faire des actions, à anticiper sur les mouvements de la population et peu à peu avoir le sentiment que ce qui est urgent, c'est d'être lucide. Et ce livre que vous venez de présenter, c'est un essai avant tout de lucidité. Quel est l'état actuel de la planète ? Quel est l'état actuel surtout ? Non plus de la planète, mais de l'humanité sur la planète.
C'est un essai de lucidité ou de morosité ?
Sûrement pas de morosité. Non, quand on est lucide, on découvre qu'il y a des choses grises et il y a des choses roses, bien sûr. Donc je n'ai pas voulu insister sur le gris par rapport au rose, ce qui aurait été de la morosité. J'ai voulu, dans tous les domaines, essayer d'être aussi clair que possible. Et quand j'ai commencé par... Mon bouquin, je n'avais pas du tout l'idée de commencer par le risque de nucléaire. Et je me suis aperçu, en approfondissant un peu mon information, que le risque nucléaire était la priorité contre laquelle il fallait se battre. Car au fond, l'humanité tout entière peut disparaître la semaine prochaine. Quand on a compris ça, on se dit que la première chose à faire, c'est de le dire, de le répéter et d'obtenir que... collectivement, les hommes échappent à ce danger monstrueux d'un suicide collectif. Et puis après, bon, de proche en proche, on parle d'autre chose. On parle de l'économie. Difficile de pas en parler en 2008.
Surtout en ce moment, évidemment. Oui. Alors ça veut dire que dans votre travail d'écriture, Albert Jacquard, finalement, vous avez laissé dérouler votre réflexion au fil des pages ?
J'ai construit lui-même. Oui. Je n'avais pas de plan au départ. Je voulais simplement insister sur les aspects de lucidité qui me semblaient très mal servis par les médias actuels. Alors, au fond, c'est à vous que je m'adressais en me disant il faut qu'il insiste sur ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, pour l'instant, pour moi, c'est le risque nucléaire. Et je découvre au passage, en approfondissant un peu ma documentation, que je ne suis pas le seul à le penser. Et que même quelqu'un comme un ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, l'a déjà dit dans ses mémoires. Mais étonnamment, c'est la grande découverte que j'ai faite, moi. C'est pas d'avoir découvert quelque chose sur l'atome, mais d'avoir découvert qu'un président français avait déclaré, en prenant tout son temps pour y réfléchir, avait déclaré que la dissuasion ne tenait pas le coup. Le concept de dissuasion ne peut pas agir, puisque dit un président, celui qui a pour tâche d'appuyer sur le fameux bouton, il dit, si par hasard j'avais besoin de la bombe atomique, je m'interdirait de l'utiliser, quelles que soient les circonstances. Autrement dit, il y a eu au moins un président français qui n'acceptait pas le jeu de la dissuasion.
Alors vous proposez d'autres idées, justement, autour du nucléaire. On va y revenir avec vous dans un instant. J'aimerais simplement revenir deux minutes sur votre parcours, parce que vous avez eu deux baccalauréats. Vous avez eu un baccalauréat en mathématiques et un baccalauréat en philosophie. C'est loin, mais c'est assez intéressant, puisque finalement, on voit que dès le départ... Vous étiez un peu partagé entre sciences dures et la réflexion philosophique.
Je ne pouvais pas lâcher la philo quand même. Ouais. Alors du coup, j'ai essayé. À l'époque, on pouvait passer les deux bacs à la fois. Alors je passais mes deux bacs. Mais je suis marqué par ça parce que l'essentiel, c'est de réfléchir. L'essentiel, c'est de comprendre. Ce n'est pas d'accumuler du savoir. Par conséquent, et surtout, l'essentiel, c'est pas d'obtenir des bonnes notes. C'est bien que toute ma vision de la pédagogie a été peu à peu transformée. Au départ, je voulais être un bon élève, je voulais avoir de bonnes notes, etc. J'ai compris un peu lentement, à vrai dire, mais j'ai compris que c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de dépasser les autres, c'est d'arriver à créer en soi une certaine structure de compréhension.
Alors, vous parlez de l'éducation, justement, dans ce livre, on va y revenir. Sur votre métier de vulgarisateur, est-ce que vous considérez ça d'abord comme un métier, comme une discipline à part entière ou pas ?
Ah oui. Oui, il s'agit, quel que soit le sujet, de l'exprimer avec des mots simples que tout le monde peut comprendre si on leur explique exactement de quoi il s'agit.
C'est essentiel pour vous ? C'est la base ?
C'est essentiel de savoir de quoi on parle. On vient de parler des OGM. Qui sait vraiment ce que c'est que les OGM ? Par conséquent, on emploie en permanence des mots qui nous trahissent. Il y a un mot contre lequel je me bats, dans un autre chapitre, c'est le mot de croissance. La croissance est évidemment impossible, puisque quand on multiplie 1,03, 3% de croissance 100 fois, on a une croissance au cours d'un siècle qui multiplie tout par 20. Donc quand un homme politique me dit « je vais m'arranger pour qu'il y ait 3% de croissance pendant un siècle », il m'annonce que j'aurai non plus une voiture mais 20 voitures, non plus une femme de ménage mais 20 femmes de ménage, qui auront chacune 20 voitures, c'est pas sérieux. Par conséquent, le mot « croissance », c'est un mot pas sérieux. Et pire encore, il y a le mot « crise ». On en parle tous les jours de la crise de l'an 2000, 2008, 2009, mais en fait, dès qu'on emploie un mot comme le mot « crise », on fait référence à une série d'événements où il y a un début et une fin. On parle de la crise de larmes, la crise de sciatique, etc. Donc quand on parle de crise à propos de l'économie, on suggère l'idée que ça reviendra au niveau d'avant. Mmh. Or, ce n'est pas vrai, c'est irréversible. Alors je cherche par quel mot remplacer le mot « crise », et je trouve en biologiste « mutation ».
Oui.
En fait, c'est une mutation que nous sommes en train de vivre. C'est beaucoup plus beau.
Et c'est plus intéressant, c'est probablement. Oui.
Justement, pour lutter contre la morosité, il faut remplacer le mot crise qui édulcore tout par le mot mutation qui, effectivement, est riche de nombreux dangers, mais qui, au moins, est exact. Par conséquent, parlons de mutation économique.
D'où l'importance de vulgariser, d'aller à la rencontre du grand public, hein, pour justement poser sur la table toutes Exactement. Ces questions, hein, qui intéressent tout le monde.
Pour qu'ils puissent dire, mais je ne peux pas comprendre, expliquez-moi. Quels sont les Français qui ont compris comment un président qui n'avait que des caisses vides au mois d'avril avait des caisses pleines de double fonds avec des centaines de milliards quelques mois plus tard. Personne ne l'a compris, lui non plus d'ailleurs. C'est pas compréhensible. Ça prouve qu'on a joué sur les mots, mais pas sur la réalité.
Albert Jacquard, en 2005, vous avez lancé l'appel des vieux avec sept autres personnalités. Il y avait Françoise Héritier, Edgar Morin, l'abbé Pierre. Et c'est vrai qu'avec des personnalités comme Hubert Reeves aujourd'hui, vous avez permis donc au grand public, hein, de partager des réflexions sur la science, sur les grandes questions justement qui agitent l'humanité. Est-ce que des jeunes scientifiques aujourd'hui, dans leur discours, dans leurs convictions, pourraient prendre un peu votre relève en attirant les plus jeunes vers des carrières scientifiques ? Est-ce que vous en rencontrez aussi ?
Il se trouve que je ne les rencontre pas, c'est probablement de ma faute.
Vous n'êtes pas très nombreux quand même, et vous occupez le terrain en plus.
C'est peut-être notre faute, parce que dès qu'on parle d'astronomie, tout le monde répond Hubert Reeves, de génétique, on répond de temps en temps Albert Jacquard, mais effectivement, on occupe le terrain sans le vouloir, parce que des gens comme vous se disent « qui je vais inviter ?» Bon, bah, dans tel domaine, j'invite Hubert Reeves tout naturellement. Si bien que sans l'avoir voulu, on occupe le terrain. Mais il faudrait laisser cette place. Peu à peu, pourquoi pas, mais malheureusement, j'ai pas l'impression qu'ils se bousculent là, pour faire ce métier-là.
Pour quelle raison, selon vous ? Ce métier de vulgarisateur, on est d'accord,
oui,
on parle bien de ça.
Hein. Pourquoi ? Mais d'abord parce qu'ils n'aiment pas parler. Nous sommes une culture qui ne sait pas très bien s'exprimer. Mon grand reproche avec les écoles actuelles, en particulier dans le secondaire, c'est qu'on ne leur apprend pas à parler. Ils emploient des mots, mais ils n'arrivent pas au niveau des phrases, ou très rarement, alors que ça s'apprend à parler. Et peu à peu, finalement, ils ont délaissé cette activité extraordinaire qui est la parole. Et j'aime bien insister en disant, en permanence, on me dit, vous voulez faire des réformes, par quoi commencez-vous ? Je réponds, je commence par en parler. Car au commencement de tout, il y a la parole. C'est la phrase de Saint Jean, tout simplement, dans son évangile. Au commencement de tout, il y a la parole. Donc, commencer par parler, par convaincre, par montrer aux gens que ce qu'ils croyaient n'est peut-être pas exact, ça mérite d'être réfléchi. Il faut pas dire « faites comme moi, pensez comme moi », mais remettez en cause ce que vous pensez. Et malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de volontaires pour diffuser cette attitude intérieure.
Donc il faudrait presque une formation hein, des vulgarisateurs scientifiques dans ce programme scolaire que vous imaginez d'ailleurs dans ce livre.
J'imagine un système scolaire qui justement permettrait aux gens d'être ceux qui se sentent importants par les paroles qu'ils disent.
Voilà, c'était le 17 avril 2009, la suite de cet entretien hommage à Albert Jacquard dans un instant dans La Tête au Carré.
What's that look upon your face? It seems you've got a lot to say, but no words come. The flow seems to be gone. Let's sing the way through it. How about a new way to pray? How about a new way to pray? How about a new way? How about a new way to pray? How about a new way? I see worries burning inside your chest. It's hard to let them go. You belong to somewhere for some reason, 'cause hope seems to hang on. Let's dance the way through it. How about a new way to pray? How about a new way to pray? How about a new way? How about a new way to pray?
Mélanie de Biasio avec The Flow à l'instant sur France Inter et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de cette Tête au Carré, spécial hommage à Albert Jacquard donc, qui nous a quittés hier. Nous réécoutons ensemble l'émission que nous avions consacrée à Albert Jacquard le 17 avril 2009. Il venait nous présenter un livre, Le Compte à rebours a-t-il commencé, dans lequel il passait en revue les questions à propos desquelles il était pour lui urgent de répondre. Et pour lui, le temps était donc largement compté.
Les dangers sont présents. Le danger d'un conflit nucléaire qui balayerait l'humanité, ce danger est exact, il est présent. Ça peut avoir lieu la semaine prochaine. Par conséquent, ça vaut la peine d'en parler, de le dire aux citoyens, et que les citoyens se manifestent à ce propos. Il est monstrueux de penser qu'au cours des dernières élections, il n'a pratiquement pas été question, et que personne ne savait que, dans un livre qui a été publié tout à fait normalement, le président Giscard d'Estaing a pratiquement détruit le concept de dissuasion. Ça vaut la peine d'être dit. Eh bien non, personne n'en parle.
Pour quelle raison? Ça n'intéresse plus personne aujourd'hui? Ou on n'a pas le sentiment que le danger est réel?
Parce que c'est trop grand. C'est trop énorme.
L'échelle est trop grande?
L'échelle est trop grande. Il s'agit de l'univers. Pas tout à fait de l'univers, de la Terre dans l'univers. Mais c'est pratiquement notre univers. On ne la quittera pas, la Terre. Par conséquent, on se trompe d'ailleurs quand on dit « on va sauver la planète ». Il ne s'agit pas de sauver la planète. Au fond, elle se fout de nous, la planète. Et nous, on devrait se moquer d'elle. Simplement, il se trouve que c'est sur elle que nous sommes assignés à résidence. Par conséquent, ce qu'il faut sauver, c'est l'humanité. Il faut avoir des raisons pour la sauver.
C'est le petit jardin du vivant, finalement. C'est ce que vous dites.
Hein.
C'est ce petit jardin de quelques kilomètres, qui n'est pas très épais.
De quelques kilomètres d'épaisseur, c'est une petite couche autour de la planète. Et c'est là que nous sommes. Et il vaudrait mieux s'arranger pour y vivre correctement. Alors malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Il faut penser que l'humanité vaut la peine d'être sauvée. Sinon, au fond, pourquoi pas? En laissant les tsunamis tout balayer. Mais pour commencer à justifier une action, il faut être conscient sur ce que nous sommes, nous les hommes. Et la première lucidité, c'est la lucidité sur la réalité humaine. Qu'est-ce que je suis? Et la réponse que j'essaie de répéter avec les enfants, je suis, regardez-moi bien, je suis une merveille. Parce que tu es une merveille. Et il y a simplement une merveille plus merveilleuse encore que toi et moi, c'est nous. Nous, quand on est capable de se rencontrer. Bien, c'est à partir de ce constat que nous sommes le produit d'un univers qui nous a fait, je ne sais pas comment, en tout cas il nous a fait, nous sommes là, on va essayer de jouer le jeu d'un univers qui serait aimable avec nous et nous aimables avec lui. Autrement dit, il faut développer deux dialogues, le dialogue de l'humanité tout entière avec la planète et le dialogue des petits groupes humains, les uns avec les autres, sachant se valoriser les uns les autres. Pourquoi pas? Ça dépend que de nous.
Ce courriel d'Axel qui nous écrit justement à propos de l'avenir de la planète, elle continuera sans nous, pour reprendre précisément ce que vous dites, mais nous préférons croire, dit Axel, dans notre outrecuidance, que nous pouvons la sauver.
C'est pas d'outrecuidance.
Parce qu'on peut la sauver quand même.
Je pense qu'on peut la sauver, moi, qu'il y a vraiment un astéroïde qui tombe dessus.
Ah ben ça, c'est pas de notre faute.
Ça sera pas de notre faute. Ce que l'on peut certainement empêcher, c'est que la Terre, que la planète disparaisse par notre faute. Ça ne dépend que de nous. Donc ça vaut la peine d'essayer. Ce n'est pas d'outrecuidance, c'est de la lucidité.
Le compte à rebours, justement, pour reprendre le titre de votre livre. Alors on peut interpréter justement ce titre de différentes manières, mais c'est aussi cette idée d'une humanité en partance qui a envie d'aller vers un ailleurs. C'est la transhumance, interplanétaire. Oui, c'est cette idée de trouver des planètes dans d'autres systèmes solaires, même pas dans le nôtre, pour pouvoir peut-être...
Dans notre système solaire, je crois qu'on l'a suffisamment exploré. On ne va pas s'installer sur Neptune.
On ne trouvera rien, a priori.
Ce n'est pas possible. Ouais. Par conséquent, personne ne pense aller sur un des satellites du Soleil, mais le satellite, par exemple, d'une étoile pas trop lointaine, comme... l'étoile Alpha du Centaure.
Enfin, pas trop lointaine, tout est relatif.
C'est 4 années-lumière.
Quand même, il faut y aller.
Alors, pour 4 années-lumière, comme on ne peut pas aller plus vite, ça mettrait beaucoup de temps, c'est pratiquement pas raisonnable d'y penser. Par conséquent, je préfère mettre tout le paquet sur vivre sur la planète sans chercher à la quitter, mais au moins vivre correctement. Or, étant donné le point de départ, on peut imaginer une humanité sereine, et finalement pleine de satisfaction. C'est pourquoi j'évoque un avenir joyeux. Le mot « joie » m'est dicté pratiquement par un jeune philosophe suisse qui a toutes sortes de problèmes personnels et qui a développé, qui continue à développer une philosophie de la joie. Il a quelques difficultés personnelles, et bien il la transforme en joie, ces difficultés. Eh bien, je crois que nous pouvons imaginer une humanité joyeuse, joyeuse d'être elle-même, à condition, effectivement, que nous sachions balayer ce que nous sommes, que nous sachions voir en nous ce qu'il y a de merveilleux. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le rôle de l'éducation. L'éducation actuelle nous apprend la lutte contre les autres. Je crois que c'est la pire des choses.
C'est la compétition, c'est le fait d'être noté.
La compète permanente. Eh bien, il faut absolument remplacer ça par l'émulation. Ça ne dépend que de nous, encore une fois. L'émulation, ça veut dire, si je cours avec vous, vous courez plus vite que moi. Je n'en suis pas vexé, mais je vous dis, comment fais-tu pour courir plus vite que moi? Et voilà, une toute autre attitude. Alors que la compétition, c'est de faire un concurrent pour arriver premier quand même. On pourrait très bien vivre autrement. Pourquoi pas?
Albert Jacquard, cette idée quand même d'aller chercher des planètes où la vie peut-être existe ailleurs, c'est quand même fascinant. Déjà rien que pour l'imaginaire, le rêve est aussi important pour se nourrir.
Probablement, ça arrive ailleurs.
Est-ce que ça remet en cause pour vous le travail des scientifiques, des astrophysiciens par exemple, qui cherchent justement ces vies en dehors de notre système solaire? Est-ce qu'il faut engager ou non des crédits dans ce type de recherche pour vous?
Ce sont des recherches qui ne visent pas à être efficaces. Ce sont des recherches qui visent à améliorer la lucidité, à nous faire regarder le monde mieux. Parce qu'une fois, il supposait, et c'est très probable, qu'il y ait des êtres intelligents quelque part, à portée de voix, si je puis dire, c'est-à-dire à quelques milliers d'années-lumière. Bien, on pourra avoir un dialogue avec eux, mais on n'a rien à se dire, pratiquement. Nous sommes isolés. Je crois que ça vaut la peine d'accepter cet isolement, non pas comme une limitation, mais comme une ressource supplémentaire. Je suis enfermé sur ma petite planète. Je vais en profiter pour construire quelque chose qui va dépendre de moi. Autrement dit, ce qui est bien plus beau que d'améliorer la Terre, c'est d'améliorer l'espèce humaine en la faisant prendre conscience de ce qu'elle peut faire. Ce que nous pourrions faire, c'est formidable.
Mais ça vous paraît futile qu'on aille regarder au-delà de notre système solaire ou pas ? Un peu futile ?
Un peu futile. Moi, j'aime mieux aider quelqu'un à devenir violoniste que quelqu'un à devenir astronome. Parce que oui, c'est un peu futile.
Ça ne va pas faire plaisir aux astronomes, dites donc.
Imaginez le dialogue avec des êtres intelligents qui sont à 10 000 années-lumière. Comment ça va chez toi ? 20 000 années-lumière plus tard, années plus tard, chez nous ça va bien. Et bon, c'est pas raisonnable. Nous sommes en train de construire quelque chose d'extraordinaire qui est l'humanité. Ça peut être l'humanité globalement, ça peut être l'humanité par petits morceaux. Je suis un morceau d'humanité en train de se construire. Mmh. Et le groupe auquel j'appartiens, les 6 milliards actuels, eux aussi sont en train de construire quelque chose.
Mais vous dites que ce n'est pas raisonnable. Mais est-ce que vous pensez que l'homme par nature est raisonnable ?
Ben oui, il est raisonnable. Il a la raison en tout cas.
Il a la raison,
il
oui.
Il dispose de la raison. Et il peut l'utiliser comme il veut. Il peut l'utiliser pour faire des bombes atomiques, pour tout détruire. C'est la raison. Mais cette raison doit être passée au crible d'un moyen de trouver une direction. Par conséquent, quand on veut être des techniciens, il faut être aussi de ceux qui pensent à l'éthique. Pas seulement la technique, mais l'éthique.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire au moment même où on est en train de développer une technologie, il faut penser aux répercussions de cette technologie.
Exactement. Si j'arrive à mettre au point le moyen de faire du clonage reproductif humain, ben il faut que je pense immédiatement à ce que ça m'apporte, à ce que ça me coûte. Est-ce qu'on va véritablement permettre à des scientifiques de chercher une reproduction, c'est-à-dire un retour en arrière dans les conditions d'il y a 2 milliards d'années? Au nom de ceux qu'on fabriquerait de cette façon-là, je crois qu'il faut répondre non. Il faudrait répondre non. Qui répondra? Non pas un dictateur qui imposera sa morale, mais une dictature collective, ça s'appelle la démocratie, qui développerait des idées d'interdiction de ceci ou de cela.
Le problème, c'est qu'on ne consulte pas le citoyen, justement, sur les...
On ne consulte personne. Non, c'est pourquoi tout est à construire. Mais nous sommes tout jeunes. Là aussi, il faut bien voir que nous avons quelques centaines de milliers d'années. Et j'aime croire que nos difficultés, en particulier notre goût de la compétition, est un signe d'acné juvénile. Nous avons de l'acné juvénile qui nous font, comme je voyais tout à l'heure sur des écrans de télé, des voitures qui couraient le plus vite possible en tournant en rond. C'est pas raisonnable du tout de faire des choses pareilles. Eh bien, oui, nous sommes capables de faire ces stupidités, mais en même temps, il y a quand même des gens comme nous qui ont écrit Don Juan.
Ce courriel de Patrice qui nous écoute à Damary-sur-Sault, l'avenir de la planète, dit Patrice, nous est trop souvent présenté comme passant immanquablement par l'énergie nucléaire. Alors, surtout en ce moment avec le débat sur le CO2. Avec Albert Jacquard, on a eu l'occasion de discuter des problèmes des déchets et de la scandaleuse option de leur enfouissement dans le sous-sol meusien. Comment considérez-vous, demande Patrice, les graves manipulations médiatico-scientifiques de l'ANDRA, donc c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Mais je crois qu'il faut poser le problème dans sa totalité. Les déchets radioactifs, pour certains, ils disparaissent vite, admettons. Mais d'autres, comme le plutonium, mettent 25 000 ans à perdre la moitié de leur nocivité. Par conséquent, on va les enfouir pour 25 000 ans. Et on va mettre une caserne autour pendant 25 000 ans. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sérieux. Par conséquent, c'est un cadeau empoisonné que nous faisons à nos petits-enfants. Or, ce plutonium, il avait disparu. Ce n'est pas la nature qui nous l'impose. C'est nous qui l'avons refait. Le plutonium a été fabriqué par la Terre dans ses premières périodes, c'est-à-dire il y a 3 milliards d'années. Il y a eu du plutonium, et puis il s'est évaporé peu à peu. Il n'en restait plus du tout. Jusqu'au mois d'avril 1941, quand on a préparé la bombe atomique, et où on a refabriqué du plutonium. Maintenant, il y a du plutonium sur la Terre, du fait des hommes et pas du fait de la nature. Bien, il faut dire non. Et pour dire non, on a bien de la peine. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Certainement pas le multiplier, mais essayer de s'en débarrasser de la façon la plus décisive, voire d'autres moyens que de l'envoyer dans l'espace, ailleurs. Mais ça va coûter très cher. Ça vaut la peine, en tout cas, de balayer cette planète des saletés que nous aurons déposées.
Donc vous répondez à la question de Didier, qui nous écoute aux Herbiers en Vendée. On nous dit que le nucléaire est écologique puisque renouvelable. Qu'en pensez-vous? Vous avez déjà donné la réponse, finalement.
Ça a de telles conséquences que le fait est que la vie n'a pu se développer qu'à partir du moment où la radioactivité a baissé sur la Terre.
Ce courriel de Fanny qui vous écrit ceci, j'aimerais, dit-elle, que vous nous donniez d'autres exemples de stupidité mathématique telles que celle de la croissance. Et j'aimerais également que vous donniez votre point de vue sur le renouveau actuel du nucléaire civil. Alors, des stupidités mathématiques. On est dans le domaine de la croissance, il y a d'autres exemples à citer.
Il y a un bon exemple qui n'est pas une stupidité, au contraire, ça peut être une astuce excellente de constater, et moi je peux le constater à mon âge, que le temps passe de plus en plus vite. Quand je vivais une année, quand j'avais 10 ans, ça me semblait long. Maintenant, une année, ça me semble court. Et on s'aperçoit que le temps intérieur que l'on ressent n'est pas le nombre des années qui s'écoulent, mais le logarithme du nombre.
Ah voilà. Bon, alors vous avez quel âge, Albert Jacquard?
83.
Non, mais avec le logarithme?
Avec le logarithme, je n'ai plus qu'1,8.
1,8, c'est pas mal.
Ouais, c'est bien. Ouais. Et du coup, je change la notion de temps en son logarithme. Et je peux à ce moment-là me poser la question, mais quel était le temps que j'avais déjà dépassé lorsque j'ai été conçu? La réponse, ça sera le logarithme de zéro. Or, le logarithme de zéro, c'est moins l'infini. Et par conséquent, moi qui vous parle, je suis dans un temps personnel qui a commencé il y a l'infini, exactement comme l'univers.
Mais ça, c'est le mathématicien qui nous parle.
Mais c'est le mathématicien, mais qui en même temps a la satisfaction de se dire, bien, grâce à des concepts nouveaux qui me permettent de compter autrement, eh bien, je me rassure un peu sur mon éternité.
Bon, voilà une façon d'utiliser les mathématiques, alors, et précisément. Voilà. Alors, Fanny, vous demandez également votre point de vue sur le renouveau actuel du nucléaire civil. Alors, précisément, vous parlez dans le livre des états voyous, et puis on peut imaginer également le danger par rapport aux armes nucléaires ou au nucléaire utilisé à des fins officiellement civiles, mais qui pourraient tourner...
Exactement. Alors, pour des buts militaires. Le problème est tout différent entre le nucléaire civil et le nucléaire guerrier. Le nucléaire guerrier, il faut vite s'en débarrasser et s'arranger pour qu'il soit complètement démantelé partout. C'est ce que demande maintenant, heureusement, M. Obama. Mais le nucléaire civil, c'est tout autre chose. Mais quand même, quand on sait que le plutonium que nous sommes en train de fabriquer va mettre 25 000 ans à ne perdre que la moitié de son poison, eh bien, on se dit qu'il vaudrait peut-être mieux arrêter les frais. Il faudrait arriver à avoir suffisamment d'énergie sans avoir recours au nucléaire. Car le nucléaire, c'est un cas très particulier. Tout ce qui est dans la nature nous prévient des dangers. Quand les choses sont trop chaudes, trop froides, etc., j'ai des sens qui me permettent de dire « c'est trop chaud, j'enlève ma main ». Tandis qu'avec le nucléaire, avec la radioactivité, je ne suis pas prévenu. Donc c'est tellement différent qu'il vaudrait bien mieux ne plus jouer du tout avec la radioactivité. C'est une, d'ailleurs, c'est une réalité naturelle qu'on n'a connue que depuis un peu plus d'un siècle. C'est tout récent. Mmh. On s'est précipité là-dessus. Il vaudrait mieux le refouler et se dire, mais cherchons de l'énergie ailleurs. Il y en a tant qu'on veut. Nous avons une centrale nucléaire formidable qui en a pour 5 milliards d'années, c'est le soleil. Mmh. Ben, utilisons le soleil.
Donc ça, c'est pour le nucléaire civil, effectivement. Encore un petit mot sur le nucléaire militaire, puisque, évidemment, les armes nucléaires, on les présente comme des armes de dissuasion, hein, donc pratiquement des armes, enfin, pas pratiquement, des armes au service de la paix. Ça, vous n'y croyez pas, évidemment, un instant. Et vous voulez, vous préconisez qu'on déclare la paix pour toutes les nations et qu'on propose à l'ONU la mise hors la loi de ces armes nucléaires.
Ah oui, je crois que c'est une nécessité. Ça a été dit par le président français Giscard. Il me semble que c'est maintenant repris par le président américain. Il est temps de passer aux actes. Qu'il y a un beau jour, une espèce d'autodafé de toutes les armes nucléaires. Contrairement à ce qu'on nous prétend, le nucléaire militaire a été un facteur de paix. C'est pas parce qu'on a eu la paix pendant 60 ans qu'il faut en conclure aussi rapidement. En fait, ce qu'il faut, c'est déclarer la paix, non pas pour 60 ans, ni pour 600 ans, mais même pas pour 6000. Ce qui vaut la peine, c'est de sauver la planète, toute l'humanité, pour des milliers et des milliers d'années, des millions d'années.
Sauf que, évidemment, Albert Jacquard, les conflits classiques entre États n'existent plus. Il y a d'autres critères aujourd'hui. Le terrorisme en fait partie, avec, pourquoi pas, un jour, l'utilisation de ces armes. Est-ce que vous pensez que votre discours pourrait être entendu un jour par ces personnes ?
Mais bien sûr. Il faut absolument que l'existence même de laboratoires s'intéressant à la radioactivité soit remise en cause. À quoi servent-ils ? S'ils servent à aider des hôpitaux à déceler des maladies, bien sûr, mais s'ils servent à fabriquer des bombes, la réponse doit être non, et un non collectif. On a besoin, et c'est ça qui est essentiel, on a besoin d'une réponse collective de toute l'humanité à certaines questions. Oui ou non, est-ce qu'on fait ceci ou cela ? Eh bien, actuellement, il n'y a aucun automatisme dans la mise en place de ces réponses collectives. Or, on a déjà commencé, pourtant, c'est ce qui donne de l'espoir. Finalement, ça se ramène à la notion d'appropriation. Les richesses que la Terre nous donne, à qui appartiennent-elles ? À qui appartient le pétrole ? À qui appartient l'air pur ? À qui appartient la Joconde ? Pour la Joconde, on a la réponse, elle appartient à tout le monde. Mmh. Toutes les œuvres d'art appartiennent à tous les hommes. Eh bien, le pétrole, un baril de pétrole, c'est une œuvre d'art qui est donnée par la nature à tous les hommes.
Ce courriel d'Alexandre qui nous écoute à Brest, en outre l'émulation, pourquoi au lieu de la compétition, ne pas parler, dit-il, surtout de coopération ? Ça, c'est une idée qu'il suggère.
C'est très bonne idée.
Hein. Jean-Marc nous dit ceci à Paris, une des plus grosses catastrophes pour notre planète est sans nul doute la surpopulation. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, quand je disais autour de moi que les Chinois avaient raison de limiter les naissances, on m'a rétorqué que la Chine était une dictature. Et pourtant, ne faut-il pas à un moment être un peu dictateur et stopper notre prolifération néfaste ? Alors la démographie, c'est un de vos sujets aussi de prédilection. Vous en parlez bien sûr dans ce livre. Est-ce qu'il faut effectivement réglementer les naissances ?
Non, j'ai de la chance pour répondre à cette remarque, parce qu'effectivement, il se trouve que spontanément, la fécondité des pays qui au fond étaient responsables de l'accroissement, cette fécondité vient de baisser. Des pays comme le Maghreb ou comme l'Iran ont maintenant une fécondité qui s'aligne très rapidement sur la fécondité occidentale. Mmh. Par conséquent, les démographes sont assez confiants qu'on va passer de 6,5 milliards à 8 ou 9, mais que ça s'arrêtera là. Le plus probable, c'est que tout naturellement, on va être 9 milliards sur la Terre. La question est à ce moment-là bien posée, comment vivre à 9 milliards sur une petite planète ? Et on sait comment on pourrait répondre.
Et pour terminer ce courriel de Jeanne qui nous écoute au Mans, Monsieur Jacquard, pourriez-vous dire au ministre Darcos qu'il est important que les élèves parlent, s'expriment, deviennent citoyens responsables ? Oui, dit-elle, l'être humain est raisonnable si on lui a appris à être responsable.
C'est exactement le résumé de mon chapitre sur l'éducation. Mais oui, il faudrait le dire à Monsieur Darcos, c'est que ça passe dans les mœurs. Un élève qui parle, c'est un élève, même s'il ne parle pas bien, on va lui apprendre à bien parler. Et ensuite à bien raisonner, à bien penser, mais le laisser s'exprimer. Actuellement, on va trop souvent à l'école pour être soumis. À l'école, on n'est pas soumis. On est là en train de rencontrer non seulement les camarades, mais les profs. Ce que je donne comme conseil à M. Darcos, c'est d'écrire sur toutes les écoles. Ici, on enseigne l'art de la rencontre. Et cela résume tout ce qu'il faut faire à l'école.
Voilà la voix d'Albert Jacquard, décédé donc hier à l'âge de 87 ans, et c'était le 17 avril 2009, dans La Tête au Carré, humain et combatif. Tel était Albert Jacquard, dont les paroles étaient très écoutées et très aimées. Vous pouvez réécouter d'ailleurs cette émission dès maintenant, la téléchargeant sur franceinter.fr. Dans un instant, le hashtag l'attaque avec toute l'équipe de l'émission. Ce sera juste après Armand Méliès.